Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Paulo Breitner, Julien Laurent, Edgar Groulot et Daniel Manoussia, on est ensemble toute la saison, tous les lundis soirs de 20h à 22h, également un podcast. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos remarques, propositions également de thématiques sur le numéro WhatsApp 0612 424 424. On vous attend nombreux à réagir. Hugo nous dit que le downfall va commencer pour City et se poursuivre pour longtemps. Voilà ce qu'il dit, hein, la chute inexorable de City selon lui.
On parlera pas au recrutement XXL.
On parlera d'Arsenal tout à l'heure, justement, qui pour moi va encore marcher sur la première ligue cette saison. Je veux ton avis aussi, Julien. On parlera, ne soyez pas inquiets, vous êtes nombreux à vouloir en parler, de Julian Alvarez qui a été conspué par ses supporters à Madrid ce samedi. On va en parler. Edgar nous dira quel peut être son avenir. Est-ce que c'est encore possible? C'est très compliqué pour lui, hein, qui a déclaré sa flamme au Barça déjà cet été, alors qu'il est toujours coincé par ses dirigeants à l'Atlético de Madrid. D'abord le Bayern. Polo, on a parlé tout à l'heure du Mourinho 2, deuxième R en tout cas. Comment s'annonce Compagnie saison 3, Vincent Compagnie? Elle a commencé, tu l'as dit tout à l'heure, par un trophée, hein, Polo. Hein. Il y a déjà un grand Olysée.
Ben, c'est ça. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il lâche rien. Et Vincent Compagnie, je lisais des interviews de lui ou de journalistes qui parlaient de lui ce matin. Et ce qui est impressionnant chez Compagnie, c'est que c'est le coach moderne, c'est-à-dire qu'il sait parler aux nouvelles générations. Évidemment, son passé de joueur parle pour lui aussi. Et tu sens que ce Bayern-là, qui a quelques kilos de trop pour certains joueurs, Dixit Compagnie, qui a une préparation à minima, et ben va. On va le dire d'une façon très simple, ils vont marcher sur la Bundesliga à minima cette saison. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, les automatismes sont déjà là. On n'a pas fondamentalement de grands changements avec deux recrues que je trouve très très intelligentes. C'est Saïbari évidemment et Nathanael Brown, le latéral gauche. Je cite latéral gauche, il a pu jouer en position de numéro 10 contre Dortmund samedi soir, qui permet de compenser beaucoup de choses, à tel point que Lyonnais a doubé Max Eberl. Rappelez-vous, les deux dernières saisons, Max Eberl disait que c'était compliqué d'être directeur sportif au Bayern. Et là, il a fait un super boulot avec Saïbari et Nathanael Brown. Moi, je pense qu'on est parti sur un Bayern de la saison dernière. Et la seule question que j'ai, quand je vois encore la marge de progression, évidemment, Harry Kane a été nommé joueur de l'année dernière, Compagnie entraîneur de l'année, évidemment. Mais quand tu vois la polyvalence des joueurs, le fait qu'on s'est débarrassé un peu des anciens, je pense à Goretzka, etc. Tu te dis que cette équipe, dans le recrutement, est allée chercher les deux joueurs qu'il lui fallait pour éviter les blessures. Il manque Gnabry, il manque Karl, et puis il y a le cas Moussiala, hein, nous ne l'oublions pas.
Pensons du cas Moussiala, Polo, justement. Arrêtons-nous dessus un instant quand même. On l'a vu pendant le mondial, effectivement, c'est plus le même joueur. Je ne sais pas si tu crois encore s'il peut redevenir le joueur qu'il était avant sa rupture. Les appuis sont plus les mêmes. Qu'est-ce qu'on dit à Munich, notamment, de lui? Et qu'est-ce qu'on attend de lui?
Là, ce qui vient de se passer, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le côté médical parce que je suis incompétent à ce niveau-là. Et puis, je ne peux lire que ce qui sort dans la presse ou la communication que fait le Bayern. Donc, il semblerait qu'il y ait eu un changement de traitement d'une maladie qui était connue chez lui et qui, en gros, se rapproche de l'épilepsie. Le problème, c'est que ce changement
c'est neurologique,
de médicament,
quoi, c'est ça,
ouais, neurologique a fait qu'on a vu qu'il a eu des petits soucis dans des matchs préparatoires. Donc, évidemment, ça ne pose pas de problème à moyen terme puisque le week-end prochain, apparemment, il sera là, il sera présent. Est-ce qu'il sera sur le banc ou est-ce qu'il sera titulaire contre Stuttgart pour commencer la Bundesliga? Ensuite, moi, ce qui m'embête avec ça, c'est quand c'est pas sa blessure, sa longue blessure, ben, on nous explique qu'il a des problèmes neurologiques. Donc moi, j'aimerais bien évidemment revoir le grand Moussiala, j'en suis intimement persuadé. Mais comme le disent les spécialistes, quand tu as ce genre de blessure qu'il a eu, et là je ne parle plus de sa maladie, lorsqu'il a eu sa blessure, c'est que c'est une question de confiance, parce que t'as toujours peur de te prendre un coup sur les chevilles, t'as toujours peur qu'il arrive quelque chose au genou, t'as toujours peur, etc. Il faut un certain temps, il faut le temps de la rééducation de la blessure, mais il faut la rééducation mentale aussi, pour ne plus avoir peur de se prendre des coups sur un match de football. Et donc la grosse question, elle est là, d'autant plus que la concurrence, ben moi Saïbari, avec sa polyvalence, il peut très bien jouer derrière Harry Kane. Le petit Karl, il est là. Bischoff, qui à mon avis est le grand perdant malheureusement de ce match de samedi soir, puisque moi je l'attendais comme titulaire, ben, il s'est s'est retrouvé sur le banc, il peut jouer aussi en position de numéro 10. Donc Moussiala, ben moi j'espère qu'il va revenir le plus rapidement possible sur le terrain et qu'on trouvera un grand Moussiala, mais voilà, moi j'ai pas de boule de cristal à ce niveau-là. Mmh.
Bon, on verra. Ce que tu me dis, c'est que le Bayern était fort la saison dernière, on l'a vu. Il était encore plus fort cette saison avec des joueurs polyvalents qui ont savoir
Olysée,
équilibré. Ouais. Olysée repart fort. Il va rester finalement une approche du Real cet été. Je crois que c'est terminé cette histoire, mon cher Polo. Voilà,
oui,
c'est sécurisé.
Oui, je pense que ça se fait pas comme ça. Il y a des discussions aussi pour Harry Kane pour encore une fois une prolongation de contrat. Donc moi, je ne dis pas que le Bayern Munich. Alors, je pense que ce sera un candidat à la Ligue des Champions, mais il suffirait que le Bayern soit 5% plus fort que qu'il a été l'année dernière, et ça en fait un sacré concurrent. Mmh. Quand tu vois le banc qu'il a, ce qu'on critiquait d'ailleurs tout ça au Bayern, on disait il n'y a pas de banc, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Bon, Lennart Kahrl, il aura un an de plus, Saïbari est arrivé, Nathaniel Brun au poste de latéral gauche, parce que c'est sa place théorique, fait que Davis, bah, il a intérêt de se bouger pour retrouver une place de titulaire. Donc j'ai été impressionné par le niveau de jeu du Bayern Munich, malgré la victoire que de 1 face à Dortmund. Mais bon, le 2-0 souffle aucune discussion, et il a fallu que le Borussia Dortmund arrive au niveau du Bayern pour égaliser, mais dans les 30 derniers mètres, il n'y a pas photo entre la qualité du Bayern et celle du Borussia Dortmund.
Tiens, Paul, puisque tu as la main, commençons par une petite question prédiction saison à venir. Quelle serait ton équipe surprise en Bundesliga cette saison?
Alors, mon équipe surprise, je vais être un peu dans la lignée de ce qui s'est passé l'année dernière, je pense que c'est Augsbourg. Pourquoi est-ce que je dis Augsbourg? C'est tout simplement parce que on s'attendait, d'après ce qui sortait, à ce que beaucoup de joueurs de cette équipe qui pouvaient encore, rappelons-le l'année dernière, en théorie, se qualifier pour une Coupe d'Europe lors de la 34e journée. On s'attendait cet été au départ de Matsima, on s'attendait au départ de Claude Maurice, on s'attendait au départ du gardien international allemand Damon, et on s'attendait au départ de Tchemour l'espoir. Ben, au moment où on se parle, ils sont toujours là. Et donc, ils ont perdu que leur latéral gauche qui a été remplacé par Behrens, qui est un grand espoir du football allemand. Et si, ils ont le même effectif que l'année dernière, avec une deuxième équipe sur le banc, et si ça fonctionne comme l'année dernière et qu'ils font pas le mauvais départ qu'ils ont eu justement, rappelez-vous Sandro Wagner, l'ancien coach qui a été viré très rapidement, et ben sous Manuel Baum, ça pourrait être la belle surprise de la saison, comme il y a eu Mayence, comme il y a eu Fribourg, etc.
Bon, avec Massengo, hein, le Français qui.
Alors il y a Massengo, il y a. Il y a Mounier, il a encore été là. Je sais plus s'il est parti déjà. Qui, il y en a eu d'autres.
C'est le seul, je crois. C'est le Français, hein, je pense à Augsbourg, à mon avis. Quoi. Mais en tout cas, il y a du monde. Tu as signé Matsima aussi, ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais. Matsima, c'est mon chouchou.
Donc Augsbourg top 5, hein, Bundesliga, hein, tu le signes. Hein.
Non, européen.
Européen, donc top 7, très bien. C'est noté. J'enregistre tout évidemment. Dans un instant, les équipes surprises également de Julien, Daniele et Edgar aussi, les crashs collectifs et puis les révélations des quatre championnats européens. Daniele, justement, Ruben Amorim est arrivé en Italie pour prendre et relancer le Milan qui ne jouera pas de Ligue des Champions cette saison. Il a commencé par une victoire lors de la première journée de Serie A. Qu'attendre de lui? Qu'attend-on de lui également? Daniele, comment est-il reçu, Ruben Amorim?
Vous vous souvenez peut-être de la fin de l'année dernière avec justement la Champions League qui a glissé des mains de
la dernière journée, avec une très vilaine défaite.
Ça fait un effet domino où ils sont partis tous. Il est parti le directeur sportif Taré, le directeur technique Moncada et le directeur général aussi Furlani, qui c'était un des sujets de critiques des supporters. Et après, ils sont restés que Cardinale et Ibrahimovic, qui d'ailleurs, il était avec Fox Sports à faire le commentaire de la Coupe du Monde. Et le Milan, ça leur a pris un mois pour choisir le nouveau entraîneur. On a parlé des Ragnik, on avait parlé des Raola, et à un certain moment, ils ont sorti du chapeau Amorim. Alors, moi, j'aime beaucoup comme choix, c'est un entraîneur que j'estime, mais qui vient d'une expérience mauvaise à Manchester. Sa cote est en baisse. Le club, il a pas, comment dire, donné l'impression d'avoir une vraie direction à prendre. Donc, je pense qu'ils ont choisi un entraîneur que, oui, sa cote est un peu en baisse, mais c'est aussi quelqu'un avec une vraie vision qui peut donner une direction à l'équipe. Et c'est aussi quelqu'un qui aime contrôler presque tout dans son club. Et on l'a vu ces premières semaines. Il a, pas seulement dans les jeux, parce que finalement, on a vu un Milan que, bon, première mi-temps, Ils ont fait 75% de possession. Ça compte pas, on sait. On le sait, ils étaient 0-0. C'était pas impressionnant la première mi-temps. Mais il y avait une identité des jeux. C'est 3-4-2-1. Le système de jeu de Amorim, il était bien placé. On a vu beaucoup de joueurs ressuscités. Chukwueze déplacé sur le latéral droit. C'est un autre joueur. On a vu Moussa, l'international américain, qui a 23 ans en fait. On l'avait un peu oublié, mais il a fait un super match. On a vu Yachari, qui l'année dernière il a eu une blessure, après il a disparu des radars. On a vu Alpha Diocissé, qui c'est un très jeune italien d'origine africaine, qui a joué l'année dernière en Serie B avec Catanzaro. C'était un des meilleurs joueurs de la deuxième division italienne. Et on se disait, avec Allegri, il va jamais jouer. Avec des entraîneurs italiens, il va jamais trouver sa place. Amorim, il a mis titulaire, il a dit, j'adore, parce qu'on dirait que c'est le plus mature, et il a tout de suite marqué. Il a un très fort caractère, les garçons. Après, il y a Pulisic qui doit encore entrer. Modric et Rabiot, ils sont rentrés qu'à la fin du match. Donc c'est vraiment une équipe à venir. Il y a beaucoup d'argent dépensé parce qu'ils se sont pas mis à...
Gonçalo Ramos, 70 millions d'euros. Diego Moreira, 50 millions d'euros notamment.
Ouais, et Guila aussi de la Lazio, c'était un des meilleurs défenseurs du championnat. Donc ils ont dépensé à peu près 150 millions.
Et est-ce que tu as fait un concurrent de l'Inter notamment, qui a annoncé évidemment favorite Serie A, et du Napoli? Est-ce que tu penses que le Milan peut se glisser entre ces équipes-là, voire les dépasser, quoi?
Moi, je pense que oui. Je pense que il manque encore quelque chose. Il manque un défenseur pour jouer la balle avec les pieds sur le côté gauche. Parce que Amorim, on le connaît, il insiste beaucoup sur la possession et la construction qui part de la défense du gardien. Il manque peut-être un autre attaquant. Parce que Gonçalo Ramos, il peut pas jouer tous les matchs, tous les minutes. Il manque peut-être un joueur qui va remplacer Leao, qui pour le moment, il est sur le marché, mais il n'intéresse pas à Amorim. Ça ne fait pas partie des joueurs que... Vous savez, il y a des joueurs qu'ils ne leur ont même pas donné des numéros de maillot. Fofana, Tomori...
Oui, mais ils sont dans le loft, ces garçons. Ouais, c'est ça, ils sont mis à l'écart. Ouais.
Ils sont complètement mis à l'écart. Léao, il ne fait pas partie de ce groupe-là, mais Amorim, oui, il a dit, ça ne m'intéresse pas. Léao, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est à lui de se remettre dans les collimateurs. Mais en plus, franchement, sur le niveau du jeu, Léao, Il ne sert pas, c'est Milan, parce que Amorim, il joue avec deux joueurs qui jouent vers l'intérieur du terrain, derrière le buteur. Il joue pas avec un ailier offensif traditionnel, on va dire. Donc il y a vraiment pas la place.
Il lui sert à rien, en absolu. Voilà. Bon, voilà pour le Milan. Quelle serait ta révélation? Je parle de joueur là en Serie A cette saison, selon toi.
Alors, je suis partagé entre Rodrigo Moura et Mastantuono. C'est pas de vraies révélations parce qu'ils ont tous les deux un homme assez lourd. Mais laisse-moi pour une fois être un supporter de la Roma et dire Rodrigo Moura. Là, je n'ai pas encore vu un seul minute de Rodrigo Moura parce que la Roma, elle doit encore jouer son match. Ils vont commencer là.
Ce soir.
Justement, même Mastantuono parce qu'il joue Roma-Fiorentina. Mais je ne sais pas, je le sens bien. Écoute, statistiquement, ça ne peut pas toujours mal finir pour la Roma. Bey, Wijnaldum, là, pour une fois, peut-être la Roma, elle a pris un bon joueur. Et là, le potentiel, il est énorme de Rodrigo Moura. Et franchement,
provenance du FC Porto, je précise. Hein, voilà, le Portugais, Rodrigo Moura, exactement. On va suivre ça. Mastantuono, on va voir aussi. On n'a pas vu grand-chose avec le Real, hein, Edgar, la saison dernière.
Oui. Ah oui. Ah. C'était très poussif, très très poussif. Même. Il y en a qui disent que il a eu de la chance d'avoir mis un coup franc en Argentine face à Boca et que face à River. Et c'est comme ça qu'il a été pris.
Non, on dit c'est une escroquerie, du coup, on dit ça.
Bah, on dit qu'en tout cas, il a pas montré grand-chose en Europe.
Ouais. Tu dis, oui, c'est ça, c'est grand moment. Donc, parfois, tu montes en épingle un joueur sur un exploit sur un gros match, voilà.
Non, mais
voilà.
Moi, j'ai regardé, quand il est arrivé à la Fiorentina, je suis allé regarder ses matchs en Argentine. Ouais. Franchement, c'était un phénomène. Après, oui, il a pas marché à Madrid, mais on n'a pas vu un autre joueur. Je pense que ça a marché. Il est trop fort. Franchement, les joueurs,
on verra.
Trop fort.
On verra. Ok, très bien. Je veux dire Rodrigo Moura plutôt que Mastantuono. On verra ça dans la saison. On fait une pause. Non, la minute espagnole. Première minute de la soirée, les amis. Elle est espagnole, justement. On va écouter Edgar. Écoutez bien. Scène étonnante. Pas tant que ça, finalement, quand on connaît la culture géographique de ce coin-là en Espagne. C'est parti. On envoie la musique, Polo.
Bye.
pas de reggaeton pour commencer la saison. Voilà, petite surprise. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'est El Fin del Mundo, la fin du monde, du groupe La La Love You. Et dans cette chanson,
une bonne grosse variété pour commencer la saison, Edgar. Bravo.
Voilà, voilà. Il faut aussi, il faut aussi. Non, mais dans cette chanson, en fait, il parle d'une femme qui danse, qui fait la fête pendant que lui, bah, il pleure et il meurt à petit feu. Et bien, pendant que toute l'Espagne fête le titre en Coupe du Monde, certains n'ont pas voulu participer à cette fête pour des raisons politiques. Et le dernier exemple est venu ce week-end. Unai Simon, Nico Williams et Aymeric Laporte, donc tous trois joueurs de l'Athletic Club de Bilbao, ont présenté le trophée du mondial sur la pelouse de San Mamés ce samedi. Et une importante partie du public à Bilbao s'est mise à siffler ses propres joueurs pour avoir fait gagner un titre à l'Espagne. Il y a même eu quelques petits chants qui ne sautent pas est espagnol, venant de supporters indépendantistes basques. C'est un sujet qui divise les Basques, qui a créé un malaise en tribune entre ceux qui sifflent, ceux qui applaudissent, ceux qui restent silencieux. Il y avait une association de supporters qui avait appelé en fait à ce que cet hommage, oui, se passe dans le respect, mais qu'il soit aussi transformé en revendication pour reconnaître officiellement la sélection basque qui compte énormément pour eux. Les trois joueurs avaient les visages fermés au moment d'entendre les sifflets, d'autant que tout ça s'est passé devant les yeux du sélectionneur Luis de la Fuente, qui lui aussi est formé au club. Donc le titre de l'Espagne appartient en bonne partie quand même à l'Athletic Club. C'est le troisième club le plus représenté de la sélection derrière le Barça et l'Atlético. Mais beaucoup de Basques ne veulent tout simplement pas en entendre parler parce qu'ils se sentent basques et non...
Mais alors, est-ce que cette scène est possible? Tu parlais du Barça, hein, qui récupère en plus Rodri, qui a une grosse délégation de champion du monde. Est-ce que cette scène peut se produire également au Camp Nou le week-end prochain?
Alors, je pense qu'il y a une notion dans les tribunes de l'Athletic Club de, il y a une habitude d'avoir des chants, des actions très politisées. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça. Et dans les groupes, c'est très politisé. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a entendu aussi nettement. Mais oui, bien sûr, il y a des gens à Barcelone qui seraient prêts à siffler ça. Alors, évidemment aussi, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont au stade. Donc, je sais pas si ça rendra pareil. Mais les joueurs, par contre, du Barça, eux, ils jouaient à Elche. Ils ont tous été applaudis, ils avaient reçu des trophées, etc. À voir comment ils sont accueillis en Catalogne. Mais c'est quelque chose qui divise beaucoup les Basques et les Catalans, parce qu'il y en a qui supportent la sélection espagnole et d'autres tout simplement, ouais, qui sont contre elle. Ou alors la majorité, je pense, enfin peut-être pas la majorité, mais en tout cas il y en a beaucoup aussi qui s'en fichent, qui décident de s'éloigner de ça.
Et d'ailleurs le Barça qui recevra l'Athletic Club Bilbao le week-end prochain, ce sera la première journée, parce qu'ils ont commencé par la deuxième journée. On va pas prendre du temps pour expliquer tout ça. C'est la Liga, c'est les droits télé, c'est comme ça.